je voulais vous commencer par une question. Vous me connaissez. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Alors souvent, on croise quelqu'un, on lui dit oui, ça va bien, puis des fois, c'est pas forcément la réalité. Est-ce que ça va vraiment bien chez vous? La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de nous réjouir en église pour différentes bonnes nouvelles. Vous vous en souvenez, le visa de Fatemé, qui est en Angleterre aujourd'hui, le rétablissement d'André, le concours de Stanley. Dieu est bon et ses bienfaits nombreux. Cependant, des fois, au milieu des bonnes nouvelles, il existe des nouvelles un peu moins bonnes. La vie n'est pas rose tous les jours, même quand on est un enfant de Dieu. Et je vous pose la question, au milieu d'une épreuve, au milieu d'une injustice, comment vous priez? Qu'est-ce que vous priez quand vous êtes au milieu d'une injustice? Nos vies sont faites de haut et de bas, c'est une réalité. Et dans les deux cas, les psaumes sont un véritable trésor pour nous aider à prier. On trouve toujours ce dont on a besoin, c'est mieux que le supermarché. Quand on souhaite remercier Dieu, on trouve toujours un psaume à travers lequel on peut louer et adorer Dieu. Exemple, le psaume 25 que Jean nous a lu tout à l'heure. Quand on a peur, on trouve toujours un psaume qui nous aide à lever les yeux vers l'Éternel et à y trouver refuge. Le psaume 120, par exemple. Il est cependant des psaumes un peu surprenants. Des psaumes un peu bizarres, écrits dans une situation d'injustice, et au sein desquels le psalmiste en appelle à Dieu, certes, mais il demande à Dieu de combattre ses ennemis, voire carrément de les anéantir. Est-ce que vous connaissez ces psaumes? Par exemple, le psaume 58, c'est un des versets les plus trash qu'on trouve du psautier. David prie, « Ô Dieu, brise-leur les dents. Ô Dieu, arrache les mâchoires de ces lions. » Est-ce que vous avez déjà osé prier ça? Bizarre, hein? Pouvons-nous nous approprier ces psaumes dits imprécatoires? Comment est-ce possible de souhaiter malheur à son ennemi? Ne devrions pas plutôt... vous n'avez pas appris plutôt à qu'il faut bénir ses ennemis et aimer ses ennemis? Pourquoi ces psaumes? Comment prier quand on est face à une injustice ou une difficulté? Ce matin, je vous propose de lire un de ces fameux psaumes dits imprécatoires, le 35, et de voir comment le comprendre. Donc le psaume 35, et je vais le lire. Donc si il reste encore quelques Bibles disponibles pour ceux qui veulent, et c'est à la page 379 dans les Bibles second 21. Psaume 35 de David. Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs et dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et déçus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent à ma perte, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège. C'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, et qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur ruine. Alors, j'exulterai de joie en l'Éternel, et je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira, « Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille ?» Verset 11, « De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et je suis abandonné de tous. Moi, quand j'étais malade, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur la poitrine. Comme un ami, comme un frère, je marchais lentement, comme le deuil d'une mère, j'étais accablé de tristesse. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour me réjouir. Ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier. Ils me déchirent sans arrêt. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, combien de temps le supporteras-tu? Protège-moi de leurs actes de violence. Protège ma vie contre ces lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Le psaume continue, je vous laisse, continue dans la même veine, je vous laisse le lire chez vous. Quel drôle de psaume! Ce psaume de David se structure en trois parties. On a lu les deux premières, trois complaintes, trois prières conclues à chaque fois par un engagement à louer Dieu une fois que la délivrance sera venue. On a lu donc trois parties, on n'en a lu que deux. Ces différentes parties, vous l'avez vu, s'appuient sur l'image donc d'un procès avec des faux témoins, des accusateurs, un accusé et surtout un juge, Dieu en l'occurrence. Que demande David à Dieu? Vous l'avez vu? Qu'il lui fasse justice, qu'il le protège, mais également que la ruine atteigne ceux qui l'accusent et que l'ange de l'Éternel chasse et poursuive ses ennemis. Waouh! Est-ce que c'est pas un peu choquant pour vous? Comment David ose-t-il prier cela? Pouvons-nous, à notre tour, nous approprier ces versets et prier la même chose? De manière plus générale, ces psaumes dits imprécatoires sont-ils des tâches dans la Bible, comme par exemple C.S. Lewis le pensait? Est-ce que c'est une tâche dans la Bible, ce psaume? Au lieu de lire linéairement ce psaume, verset par verset, je vous propose plutôt d'essayer de comprendre avec vous ce psaume, d'essayer de le comprendre à travers quatre grandes remarques sur ce psaume. Et ma prière est qu'à travers ces quatre remarques, nous puissions nous aussi comprendre qu'il nous faut parfois oser crier à Dieu notre soif de justice. Non pour nous faire justice nous-mêmes, mais parce qu'on a soif de sa justice à lui. Et si vous avez compris ça, ça sera tout bon. Première remarque. Ma première remarque est celle d'un constat valable à l'époque de David et encore aujourd'hui, c'est que la vie est dure et que la vie est injuste. Et que le secours de Dieu, face à cette injustice, que le secours de Dieu n'est malheureusement pas, je dirais, instantané ou immédiat ou automatique tous les jours. C'est un constat valable à l'époque, encore aujourd'hui. Et si David a été amené à écrire ce psaume 35, un tel psaume, à formuler de telles prières, c'est que tout roi choisi par Dieu qu'il était, eh ben, sa vie n'était pas un long fleuve tranquille et que c'était bien compliqué. Sans ça, il n'aurait pas eu à écrire ce psaume, n'est-ce pas? Les injustices auxquelles David fait écho font-elles écho à la période avant qu'il devienne roi, vous en souvenez, quand Saül le persécutait? Ou alors, peut-être après, plutôt à la fin de son règne, quand son propre fils Absalom essayait aussi de le faire chuter? Bon, on ne sait pas exactement à quelle période de sa vie ça fait écho, mais quoi qu'il en soit, il se dit poursuivi, harcelé, moqué, persécuté, attaqué. Alors, vous n'êtes peut-être pas poursuivi jour et nuit par une armée, a priori, sauf quand t'es en mission, René, mais a priori, c'est pas notre quotidien d'être poursuivi par une armée. Mais je suis sûr que déjà, à notre échelle, nous avons déjà malheureusement expérimenté combien la vie peut être dure et injuste. Le décès tragique, il y a 10 jours, donc, du pasteur Edouard Nelson, qui était pasteur implanteur à Paris, là où les deux Bézieux sont allés, le décès tragique de cet homme n'est qu'un triste exemple supplémentaire de la dureté et de l'injustice de la vie. Verset 17, on l'a lu tout à l'heure, on a envie de faire cette prière. Seigneur, jusqu'à quand tu supporteras cela? Jusqu'à quand tu supporteras cela? La vie ici-bas, oui, est marquée d'injustice. Pourquoi? Car le péché est présent dans la vie, tout simplement. Car le péché est présent. Et la présence du péché, du mal, n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Certaines personnes pensent, oh, puisqu'il y a du mal, c'est que Dieu n'existe pas. Non, au contraire, la présence du mal nous montre bien que quelque chose ne tourne pas rond dans notre monde, et donc que Dieu peut nous délivrer. Dieu peut nous délivrer, mais il est vrai que la délivrance de Dieu est rarement instantanée et immédiate. On aimerait bien être délivré, épargné, rétabli instantanément. Mais Dieu est souverain et lui seul sait pourquoi, à travers de nos épreuves, ce qu'il veut nous apprendre, là où il veut nous emmener. Vous qui êtes parents, est-ce que vous expliquez 100% des choses à vos enfants dans la manière de les éduquer ou les manières de leur faire comprendre des choses? De la même manière, Dieu est souverain et ce n'est pas notre rôle de tout comprendre. Et le livre de Job en parle beaucoup. Nous ne sommes pas Dieu pour tout comprendre. Que faire alors en attendant, puisqu'on ne peut pas tout comprendre? Il nous faut prier et crier à Dieu. Ah, il y a un chien. Il nous faut crier à Dieu. C'est notre deuxième remarque. Deuxième remarque, quand vous priez, est-ce que vous osez dire à Dieu ce que vous avez sur le cœur? Est-ce que vous osez lui dire ce que vous avez sur le cœur? Ou alors demandez-vous à Dieu de bénir tel ennemi, alors qu'en vous, en fait, votre cœur crie l'inverse. Mais pour faire plaisir à Dieu, on va faire une jolie prière. David nous donne l'exemple d'une prière sincère, bouleversante, transparente. C'est notre deuxième remarque. Oui, David souhaite voir arriver la ruine sur ceux qui le persécutent. On peut être choqué par la violence de ses propos, mais s'il vous plaît, soyez aussi interpellé par la transparence et l'honnêteté de ses propos. David en a ras-le-bol, il a soif de justice et il ose le crier, et il refuse de s'accommoder des injustices qu'il voit autour de lui. Quand vous voyez une injustice autour de vous, qui vous concerne, qui concerne des gens que vous voyez aux infos, que vous voyez autour de vous, est-ce que vous dites « Ah, pas grave, c'est comme ça ». Non, David est révolté, et il ose le dire, et il ose tout dire à Dieu. Waouh ! Dans ce sens, il est un exemple. Et sachons, comme David, ne pas nous résigner devant l'injustice et oser, comme David, crier à Dieu notre soif de justice. Avec nos tripes, avec nos mots, avec nos attentes. Et tant pis si ce n'est pas de la poésie, comme David. Mais ce psaume de David, s'il est un exemple d'une prière bouleversante et transparente, regardons aussi à ce que ce psaume n'est pas, à ce que ce psaume imprécatoire n'est pas. Ce n'est pas un coup de colère, un pétage de plomb devant ses adversaires. Cette prière de David n'est pas un coup de sang irréfléchi, mais au contraire, le fruit d'une réflexion, d'une prière envers Dieu, le fruit d'une rédaction, d'une œuvre poétique. Ce n'est pas un coup de colère. Alors n'utilisons pas le prétexte de ce genre de psaume dans la Bible pour justifier le fait de des fois se mettre en colère et péter un plomb contre notre collègue ou contre je ne sais qui. Ce psaume n'est pas un coup de colère, il n'est pas non plus un psaume de vengeance personnelle. Vous avez vu que David évoque des ennemis dans ses prières, mais il ne mentionne personne spécifiquement. Il ne mentionne pas Saül ou Absalom. Nous ne sommes pas ici dans le cas d'une vengeance personnelle. Seigneur, je te prie de faire du mal particulièrement à Tata Georgette qui la semaine dernière ne m'a pas. On n'est pas du tout dans ce genre de prière, d'accord? Je ne sais pas si vous avez une tante qui s'appelle Georgette, si c'est le cas, toutes mes excuses. David comprend qu'à travers sa propre situation à lui, c'est tout le mal et l'injustice qui sont en train d'arriver en Israël. Il le dit verset 20, on l'a lu tout à l'heure. Même les gens tranquilles du pays sont désormais cibles de mensonges. On n'est pas dans une vengeance personnelle et il aspire à la justice de manière légitime. D'autant plus qu'à la fin, David veut qu'à la toute fin, cela ne serve pas sa propre royauté, mais bien la gloire de Dieu. Et il s'engage à louer Dieu une fois que la délivrance sera venue. Alors ma langue, verset 28, « Ma langue célébrera ta justice et ta louange tous les jours. » Donc n'utilisons pas ce psaume imprécatoire pour justifier un coup de colère ou alors pour en faire un prétexte pour une vengeance personnelle contre je ne sais qui. Mais par contre, prenons exemple sur ce genre de psaume quand il s'agit de crier, d'être transparent devant Dieu et d'oser crier à Dieu notre soif de justice. Pourquoi crier à Dieu notre soif de justice ? Car lui seul est capable de nous faire justice pleinement, c'est notre troisième remarque. Lui seul est capable de rendre justice. Sans cette conviction, à quoi bon prier ? Ça sert à rien de prier hein, si Dieu n'est pas capable de rendre justice. Hein. Priez pas. Hein. Le secours de Dieu est bien réel au cœur de l'épreuve. Et dans le cas de David, on voit que Dieu a effectivement rendu justice à David. Saül et Absalom sont effectivement... Il est arrivé malheur, ils sont morts tous les deux avant David, Saül et Absalom, effectivement. Est-ce que Saül et Absalom sont morts sous l'épée de David ? Non. Est-ce que Saül et Absalom sont morts en raison des prières imprécatoires de David ? On ne sait pas. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que Dieu a rendu justice et une justice parfaite parce qu'il est le Dieu et le juge parfait. Tu as dit tout à l'heure, Jean, dans ta présidence, qu'effectivement, on n'est pas dans la Bible ne décrit pas une réalité où tout le monde est joli, tout le monde est beau et tout le monde ira au paradis. Non, Dieu dit dans sa parole que c'est à lui de rendre justice et à lui seul de le faire et qu'il a le droit de le faire. Dans Deutéronome 32, Dieu se présente et dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. » Nombre 14, Dieu ne tiendra point le coupable pour innocent. Devant Dieu, le coupable ne sera pas dit innocent. Et Exode 32, oui, Dieu menace de malédiction ceux qui le désobéissent. On n'est pas sur un Dieu bisounours, on est sur un Dieu juste. Si Dieu est justice, s'il est le juge parfait, alors pourquoi n'exerce-t-il pas la justice plus souvent ici-bas ? Après tout, pourquoi ? Pour deux raisons. Il y en a peut-être une troisième, mais moi j'en ai pensé à deux en tout cas. La première, c'est que Dieu veut laisser l'occasion au coupable de se repentir. Il veut lui laisser le temps de se repentir, de demander pardon, de changer de vie. Imaginez que Dieu sanctionne immédiatement toute personne lui désobéissant et qu'il sanctionne immédiatement toute personne commettant une injustice. Il n'y aurait pas grand monde ici-bas et il n'y aurait pas grand monde ici au culte ce matin. Dieu a fait preuve de patience et d'amour envers nous. Nous n'étions pas meilleurs que les autres, mais nous avons demandé pardon à Dieu. Nous avons fait demi-tour dans notre vie. Et Dieu a eu preuve de patience envers nous. Et oui, Dieu veut aussi faire preuve de patience envers nos ennemis. Des fois, on aimerait bien que Dieu soit moins patient avec eux qu'il l'a été avec nous. La deuxième raison pour laquelle Dieu n'exerce pas plus souvent la justice ici, c'est que ce n'est pas là qu'il a prévu de le faire, définitivement. Est-ce que vous rêvez d'une terre, d'un endroit où il n'y a ni injustice, ni guerre, ni virus, ni deuil, ni larmes, ni douleur, ni même mort. Est-ce que ça vous donne envie un endroit comme ça? Vous rêvez d'un tel endroit, et bien vous avez raison. Ce n'est pas de l'utopie, mais c'est une réalité à venir, car Dieu l'a promis et va le faire. Mais par contre, il ne va pas le faire ici-bas. Mais à travers une nouvelle création, une nouvelle terre. Et les deux derniers chapitres de la Bible nous en parlent et nous donnent envie d'y être. Apocalypse 21 et 22. Que c'est beau! Pour les bricoleurs que vous êtes, certains, quand une maison ou un mur est en si mauvais état, il est parfois plus facile et plus sage de recommencer à zéro et d'en reconstruire un plutôt que de se lancer dans une rénovation sans fin, j'ai envie de dire. Oui, donc Dieu va recréer un monde parfait. Voilà ce qu'il nous promet. Mais nous qui sommes imparfaits dans ces cas-là, est-ce qu'on va pouvoir y être? Oui, par grâce. Et c'est là les messages de l'Évangile. En raison du sacrifice de Christ et de la vie nouvelle qu'il nous offre, nous serons invités dans ce monde parfait. Alors oui, Dieu fera justice un jour, n'en doutons pas et réjouissons-nous de ce jour à venir. Ce jour sera un jour de salut, mais ça sera aussi un jour de jugement pour ceux qui l'ont désobéi et rejeté Dieu. Et quand nous prions d'ailleurs que ce jour arrive, des fois on a des chants, que ton règne vienne et tout, Maranatha. Quand on chante Maranatha, quand on demande à ce que ce jour du Seigneur arrive, ça englobe notre salut, mais on est en train de faire aussi une prière qui demande le jugement de Dieu. Et dans ce sens-là, nos prières ne sont plus éloignées tant que ça de celles de David. Sauf que David, il demande justice, peut-être un peu plus tôt, ici-bas, mais in fine, c'est la même prière que l'on fait. Que justice soit faite, salut pour les uns, à travers Christ, et juste condamnation pour les autres. Que faire donc? Que faire donc en attendant cette délivrance et cette justice à venir? C'est ma quatrième remarque. Que faire en attendant? Prier, on l'a vu. Continuer de prier de manière transparente, bouleversante, sans vengeance personnelle. Que faire donc? Quatrième remarque, rester vainqueur du mal par le bien. Rester vainqueur du mal par le bien. Et là, on a deux exemples. Un dans ce psaume avec David. Regardez les versets 12 à 14 que l'on a lu tout à l'heure. David le dit. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil pour eux. David prie contre ses ennemis, mais il se refuse lui-même à être source de malheur ou de mal. Vous l'avez vu? Si donc David vous choque dans ce psaume 35, rappelez-vous que David est aussi celui qui a toujours refusé de se faire vengeance personnellement. Nous nous souvenons par exemple que David a eu l'occasion plusieurs fois de tuer Saül, mais ne l'a jamais fait. Et pourtant, il fait cette prière dans psaume 35. Par exemple, vous avez cette anecdote où David est caché dans une grotte dans laquelle Saül vient, il vient faire ses besoins, et Saül, David discrètement prélève un bout de la tunique de Saül pour lui montrer a posteriori, regarde, tu étais à ma merci, mais je n'ai pas voulu te faire du mal. C'est le même David qui écrit le psaume 35. Et qui appelle malgré tout à la justice. Romains 12, les deux derniers versets de Romains 12 disent « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, et c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Et ça fait un lien avec Deutéronome 32 qu'on a lu tout à l'heure. Mais si ton ennemi a faim, toi, quelle est ta responsabilité? Non de te venger, non de donner ce que l'autre mérite. Verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, qui est une image de bénédiction et pas de... C'est que c'est pas très agréable d'avoir un charbon ardent sur la tête, là on est sur une image de bénédiction. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ce que l'apôtre Paul a écrit 800 ans plus tard, David l'avait déjà compris. Cela ne l'empêchait pas de désirer que justice soit faite. Aimer son ennemi, ça ne veut pas dire ne pas désirer que justice soit faite. Mais lui, le concernant, sa responsabilité à lui, c'était de rester vainqueur du mal par le bien. À Dieu la justice, à nous le fait de rester vainqueur du mal par le bien. Deuxième exemple, on peut regarder à David, mais on peut surtout regarder à Christ. Et ça sera ma toute dernière remarque. Il nous faut regarder à Christ qui a su, face à ses ennemis, et il en a eu, allier justice et amour. Jésus, c'est les deux à la fois. Si vous en prenez qu'un sur les deux, vous n'avez plus le Jésus de la Bible. Par exemple, Matthieu 23, d'un côté, Jésus dénonce sévèrement les hypocrites et les menteurs et les annonce et les avertit du jugement à venir, qui sera terrible. Voilà ce que dit Jésus. En même temps, Matthieu 5, Jésus est celui qui nous demande d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Luc 10, Jésus prévient que les villes qui refusent d'accueillir les 70 disciples seront traitées un jour plus sévèrement que Sodome. Waouh, c'est Jésus qui dit ça. Hein. Luc 23, Jésus est en croix et qu'est-ce qu'il dit ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dernier exemple, Marc 13, Jésus avertit que le jour où il reviendra, ce sera autant un jour de salut pour les uns qu'un jour de jugement terrible pour ceux qui l'ont rejeté. Si vous prenez qu'une des deux facettes de Jésus, vous n'avez plus le Jésus de la Bible. Oui, Jésus, au-delà de David, est le meilleur exemple qui soit concernant quelle attitude à avoir envers nos ennemis. Une attitude basée d'un côté sur la justice qui nous demande de ne pas appeler bien ce qui est mal, mais de l'autre, une attitude basée sur l'amour avec le choix de rester vainqueur du mal par le bien. Et Jésus a été vainqueur du mal par le bien, par sa vie. Voilà l'exemple de Jésus. En conclusion, j'espère que vous voyez maintenant comment ce psaume, ce type de psaume, ne sont pas des tâches, mais des trésors dans la Bible. Un psaume, le psaume 35, un psaume qui nous encourage à crier à Dieu. Un psaume qui nous encourage à être honnête et transparent dans nos prières. Un psaume qui demande à ce que justice soit faite vis-à-vis des ennemis de Dieu, soit à travers leur conversion, et justice sera rendue à travers le sacrifice de Christ, soit à travers leur juste condamnation éternelle. Mais dans les deux cas, la justice de Dieu aura été parfaitement respectée. Et quant à nous, un psaume qui nous encourage à rester vainqueur du mal par le bien. La prochaine fois, chers amis, la prochaine fois que vous prierez à propos d'une injustice à votre égard, ou à l'égard de quelqu'un d'autre, ou à l'égard de l'Église persécutée, par exemple, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, pourquoi pas avec ce psaume 35, à toujours plus trouver secours en lui, en lui seul, dans ce Dieu parfait dont l'amour et la justice nous ont déjà été révélés en Jésus-Christ, mais qui un jour sera manifeste. Et là est notre espérance. Amen. Et je vous invite à la prière. Oui, Éternel, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu trois fois saint, tu es un Dieu juge et juste qui n'appellera pas le qui ne tiendra pas le coupable pour innocent. Et en cela, Seigneur, devant cela, tu as même envoyé ton Fils Jésus pour racheter, pour justifier des pécheurs à travers Christ, qui n'était pas meilleur que les autres. Et nous n'étions pas meilleurs que les autres. Mais merci parce que justice a été rendue à travers Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, nous aspirons encore à ce que justice soit faite. Et nous savons qu'un jour, dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle terre que tu prépares, justice parfaite sera rendue. Seigneur, avec cette espérance, avec cette conviction, aide-nous à toujours plus nous approcher de toi dans nos difficultés, dans nos épreuves, à nous approcher de toi comme le refuge, comme le secours. Et apprends-nous à donne-nous la force de malgré tout de continuer à aimer nos ennemis et à être vainqueurs du mal par le bien. Soutiens-nous, fortifie-nous, équipe-nous par ton esprit, et que à la fin toute chose concourt à ta gloire et à ta louange. Amen.